Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
C'est un dernier entretien de cette série des clés pour vivre avec, vous l'avez découvert, pour intervenant depuis le début de la semaine, un frère Carme, prieur du couvent des Carmes à Paris, frère Jean-Alexandre de Garidel. Bonjour frère.
Bonjour Nathalie.
Alors cette semaine, nous avons relu un petit peu ce monde un petit peu numérique qui nous entoure pour toute notre humanité, avec les enjeux aussi présents et futurs de l'intelligence artificielle. L'importance, vous avez rappelé aussi l'importance de prendre soin de ce cœur, de prendre soin de cette vie intérieure, de prendre soin de ces espaces de silence,
oui.
Donc de résister au fond. Vous nous avez rappelé, vous avez donné des clés aussi, de piqûres de rappel, combien il est important, sans se décourager, de lutter, d'entrer au fond dans une forme de combat spirituel. Il faut résister,
résister
face au combat et face aux tentations. Et les tentations sont grandes aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, avec tous ces écrans. Il y a la facilité et il faut tenir bon. Alors, on peut tomber, mais on peut se relever.
Tout à fait.
Alors, c'est un entretien autour de l'espérance. Comment espérer, comment réussir à retrouver l'espérance, retrouver peut-être cette vraie joie d'espérer dans ce monde un peu confus, où tout va très vite et où tout va encore plus vite dans ce monde numérique.
Oui, alors, pour l'espérance, ce qui est premier, je pense, c'est la source de l'espérance. La source de l'espérance, c'est Dieu. Et donc, l'espérance est une vertu théologale que nous recevons dans la grâce du baptême, avec la foi et la charité, et qui nous rappelle que le Christ a vaincu, le Christ est ressuscité. Donc, le monde va mal, nous en sommes d'accord, c'est un poncif aujourd'hui de le dire. Mais en tant que chrétien, la parole que nous devons apporter au monde est une parole d'espérance, qui n'est pas une parole d'espoir. Bernanos le dit bien, l'espérance, c'est justement c'est la certitude de la victoire du Christ sur les forces du mal. On ne sait pas comment ça va se faire et autres, mais c'est ça qui doit, nous conduire, qui doit nous entraîner vers l'avant, alors même que ce monde semble aller à sa perte à certains niveaux. L'espérance véritable, elle n'implique pas le manque de lucidité. Il faut être lucide sur notre monde et voir ce qui ne va pas, mais ne pas se laisser emporter par une forme de défaitisme ou de condamnation dans tous les sens, parce que ce qui est premier et dernier, c'est l'action de Dieu dans notre vie et dans notre monde. Et donc, en tant que chrétien, la ressource de l'espérance, elle va être d'aller chercher chaque jour, dans la prière, même un court temps de prière, le don de l'espérance. L'espérance, on la reçoit et on la choisit. Donc ça commence par ici. Et à partir de ce travail très simple au quotidien de cette réception de l'espérance, eh bien je vais pouvoir poser sur le monde un regard d'espérance qui vient de plus loin de moi, tout en disant telle chose ne va pas, on est mal engagé sur tel ou tel sujet, et on le voit à travers l'intelligence artificielle, il y a quand même un certain nombre de questions alarmantes, mais ce n'est pas du même ordre que la victoire du Christ. Et si je confonds les plans, c'est là que ça va mal, et que je risque de me décourager comme tout le monde.
Alors quels sont pour vous, frère Jean-Alexandre, les signes d'espérance dans ce monde, aujourd'hui, là, maintenant, hyper connecté?
Le signe d'espérance, c'est l'encyclique du Saint-Père.
Ça, déjà, c'est la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle,
on invite les auditeurs à lire très vite.
Magnifique Humanité, qui est un ouvrage évidemment assez costaud, mais qui fait une sorte, je trouve, de relecture très intéressante via la doctrine sociale de l'Église, en rappelant ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église, appliquée aux enjeux actuels de la dignité de la personne humaine et de l'intelligence artificielle. Il y a aussi un certain nombre de personnes aujourd'hui qui prennent conscience quand même des problématiques liées aux écrans et au numérique, et notamment aux grands acteurs, les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Amazon et Apple et Microsoft, qui nous disent, attention, là, il y a quand même des enjeux qui sont importants, et même des plus jeunes qui sont très attentifs à cela, qui sont attentifs aux contradictions qu'il y a entre la croissance exponentielle des besoins en refroidissement de serveurs pour l'IA et les questions écologiques, qu'on semble comme oublier, alors qu'elles sont quand même extrêmement préoccupantes aujourd'hui. Donc il y a des raisons d'espérer, elles sont là. Mais en tant que chrétien, je pense que la raison la plus profonde d'espérer, nous la trouvons en nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'enjeu de mon livre sur cette thématique de l'urgence intérieure est de nous dire, mais si nous voulons espérer, nous devons absolument nous battre pour préserver du temps en nous pour recevoir ce don de l'espérance. Si nous ne prenons pas ce temps-là, on aura beau s'agiter en tous les sens, parler en tant que chrétien ou évangéliser sur les réseaux, parler, dire « Christ est ressuscité, youpla boum », c'est très gentil, mais s'il n'y a pas une personne humaine engagée derrière, ça sera superficiel et même trompeur.
Vous parlez d'évangélisation, on est dans l'espérance et c'est bon d'avoir cette espérance dans une humanité qui semble un peu dans une période de confusion, mais Dieu est là, bien présent. Comment percevez-vous, comment voyez-vous, quelle est votre clé de lecture pour devenir, là je pense à ceux et celles qui vous écoutent, qui souhaiteraient peut-être être vivants et vivants aussi dans la mission, dans le temps du numérique et dans le temps aussi l'époque de l'intelligence artificielle. Comment réussir une bonne évangélisation sans se perdre ?
Bien, ça suppose une vraie discipline. Une vraie discipline de vie, hein, ce qu'on appelle l'ascèse, qui suppose la connaissance de soi-même, mes forces et mes faiblesses, le fait que je ne peux pas toujours donner sur les écrans, donner, me montrer, me donner un exemple ou je ne sais quoi, et sans avoir des temps où je suis sans écran, où je suis face à moi-même, à mes limites, à mes pauvretés, à mes contradictions, avec d'autres en communauté, et je peux vérifier que ce que je donne à voir ou que je donne à dire sur les écrans soit un minimum crédible et fiable, et que je sache aussi dire les difficultés, les combats, mes pauvretés, voire mes contradictions. Si je présente la vie chrétienne comme une sorte de vie lisse, parfaite, de pur pharisien, je suis dans le mensonge. En tout cas, le mensonge vis-à-vis de moi, mais je trompe aussi les personnes à qui je m'adresse. Donc j'ai besoin de ces temps off, hein, déconnectés, de ces temps de prière, de ressourcement. Moi, j'utilise, s'il y a une image que je souhaite offrir, et c'est la seule à offrir, c'est celle de l'arbre. Hein, qui est une image biblique que je reprends dans la conclusion de mon ouvrage, qui vient du psaume 1, notamment dans la Bible. « Heureux est l'homme hein, qui suit la loi du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui porte du fruit en son temps. » Eh bien, cette image biblique de l'être humain comparé à un arbre, elle est très parlante aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous sommes comme des arbres hyper connectés par les branches. On a de multiples branches dans notre aide, c'est-à-dire on n'a jamais été autant sollicité d'un point de vue quantitatif dans les relations, dans l'histoire de l'humanité, par les réseaux sociaux. Et des études sociologiques l'ont montré. On a trop de contacts. Et donc c'est épuisant à nourrir tout ça. Donc on tire sur les branches dans tous les sens, mais si on ne développe pas les racines en proportion, eh bien l'arbre, il tombe. Il aura beau être brillant, l'arbre, un très beau cèdre, un super influenceur sur Internet, s'il n'a pas ses racines et cette vie proportionnel en termes de temps, mais rassurez-vous, inquiétez-vous, au bout d'un temps, il tombera. Et quand il ne tombera pas seul. Donc, il y a une urgence et un devoir, voilà, c'est un devoir de responsabilité, de prendre soin de notre âme, pour, surtout si on a responsabilité apostolique d'évangélisation, nous allons vers un grand danger si nous ne sommes pas équilibré entre l'intérieur et l'extérieur, les racines et les arbres. Et c'est vrai pour toute personne humaine, pour tout baptisé, pour tout évangélisateur. Il n'y a pas de miracle. Le Seigneur nous a donné des temps pour recevoir et des temps pour donner. Si nous prétendons toujours donner, nous allons tomber dans l'orgueil et l'adversaire, l'ange de lumière, va nous faire miroiter des belles choses et puis nous faire tomber à un moment où on ne s'y attend pas.
Jésus lui-même, et là je pense à Jésus, lui-même qui montre l'exemple, il a prêché, missionné pendant ses 3 ans, mais il partait à l'écart, dans le silence, dans la montagne.
Et puis il a passé 30 ans à Nazareth.
Et 30 ans,
30 ans à Nazareth, quel mystère.
Quel mystère aussi de préparation, aussi d'humilité et de silence.
Tout à fait. Ouais. Les vraies œuvres de Dieu, elles arrivent. Voilà, elles ne sont pas des œuvres humaines. Et là où je pense qu'il y a un point qui est très important aujourd'hui, qui peut être un piège sur le plan apostolique, hein, c'est la notion de limite. Et le pape le rappelle d'ailleurs dans l'encyclique, c'est que nous sommes constitués par un corps et par des limites. Et si nous ne mettons pas des limites à notre travail apostolique, à notre engagement, eh bien nous tombons dans l'orgueil spirituel et qui conduit à des fruits frelatés. Donc il faut vraiment de l'humilité, et l'humilité, ça suppose la prière et du recul.
Au fond, c'est vous laissez les deux grandes clés, l'humilité, qui est aussi un signe d'obéissance.
Oui, tout à fait. Alors, ouais. L'obéissance, c'est une dimension objective. Hein, quand on voit l'histoire de l'Église au long cours, les saints sont toujours ceux qui se sont distingués par rapport à d'autres stars, entre guillemets, de leur temps, par le fait qu'ils ont resté dans l'obéissance à l'Église, parfois de façon douloureuse, et de façon malgré tout aussi intelligente et libre, et ceux qui ont voulu faire leur volonté et qui se sont plantés et qui ont trompé les autres. Bah, aujourd'hui, c'est pareil avec les réseaux. Nous verrons dans le temps long si ceux et celles qui sont engagés sur les réseaux, par leur obéissance et leur humilité, porteront du fruit, et s'ils sortent de cette obéissance-là, eh bien, voilà, il n'y a pas de miracle, les fruits ne seront pas bons.
Oui, parfois on dit que là où il y a l'humilité et puis l'obéissance, il y a la vérité.
Tout à fait. Voilà. Et Sainte Thérèse d'Avila dit, l'humilité, c'est marcher dans la vérité. Marcher dans la vérité.
Bon, on reste avec cette parole de la grande Madre.
Oui, tout à fait.
De Thérèse d'Avila. Et puis, j'invite les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas l'ordre carmélitain. Il y a de très grandes figures de saints, comme Thérèse d'Avila.
Qui sont citées dans le livre, d'ailleurs.
Qui sont citées dans le livre. Donc, c'est une bonne action aussi, chers auditeurs. Découvrez aussi quelques saints du Carmel. Et puis, à travers cet ouvrage, avec ce sujet qui est un sujet actuel, avec aussi l'arrivée du l'intelligence artificielle. Et j'invite les auditeurs à lire votre livre « Dieu crève l'écran, repère spirituel en temps d'hyperconnexion ». Et permettez-moi aussi de rajouter, lisez aussi l'encyclique « Magnifique Humanitas », cette encyclique qui est parue récemment du pape Léon XIV.
Tout à fait.
Merci à vous, frère Jean-Alexandre de Garidel, prieur au couvent des Carmes à Paris. Merci.
Merci Nathalie.